Avertissement. Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Ce n'est pas une émission spéciale, mes très chers amis, mais on va...
Pas loin.
Mais pas loin. Hein? On va beaucoup parler aujourd'hui de la langue.
Oui.
Mais attention.
Laquelle?
Pas la langue dans le
la
vinaigre.
La tienne?
Pas la langue dans le vinaigre. Non, 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 non. Rien à voir.
Arc!
T'aimes pas ça, la langue dans le vinaigre?
Non, pff. T'as-tu déjà goûté?
Non, moi non plus, j'aime pas ça. J'ai goûté une fois.
Ouais, moi aussi.
J'ai un petit morceau.
Puis c'est... Non.
Non.
Non. J'ai fait
on parler...
comme...
Non. On va parler de la langue française.
Ah, celle de Molière.
Exactement.
OK.
Et de François et de Simon. Et de vous autres qui nous
ben
écoutez.
Oui.
Vous savez que le mois de mars, c'est le mois de la francophonie.
Oh, c'est pour ça.
C'est pour ça qu'on va parler de la langue française, entre autres choses.
OK. Bon, là, de, je comprends.
Le mois des rendez-vous de la francophonie
oui,
également.
Oui, hey, parlons des rendez-vous de la francophonie, justement. D'ailleurs, on va recevoir à l'émission Micheline Marchildon,
okay.
qui est une franco-manitobaine. Elle est une des porte-parole, justement, des rendez-vous de la francophonie 2024. Également, nous aurons l'occasion de parler impro.
Impro.
Dans le sens de improvisation.
Oh! Improvisation mixte ayant pour titre peut contenir des infos. Avec deux joueurs.
Et je te lance une claque.
Ben non, quand même.
Quand est-ce qu'il lançait des claques?
Ah, c'est quand, par exemple, l'arbitre, souvent dans la LNI, c'est Yvan
oui.
Ponton hein, qui officiait, là, qui était
ben
l'arbitre.
Oui.
Et je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas. Puis quand, des fois, il y avait des décisions un peu controversées.
Ah, c'est là que tu pouvais lancer une claque.
Tu pouvais garocher une claque à l'arbitre
oui.
puis signifier que tu n'étais pas d'accord.
D'accord. Ah, OK, OK.
Avec ben, la décision.
Ça va être le fun parce qu'on va parler avec une vraie passionnée de l'impro, Marie-Claude Desroches-Maheu. Elle est de la Fabrique d'improvisation du Nord, qui est située au Yukon.
Puis j'aime l'acronyme parce que ça donne la fin, hein, c'est ça?
Oui, FIN.
Fabrique d'improvisation du Nord.
Nord. La fin.
C'est le fun.
Oui. Puis elle est hyper, hyper passionnée et intéressante. Vous allez voir, c'est une belle entrevue.
Et puis, nous allons compléter. On n'annonce jamais les couleurs, là,
ben là on,
du quiz.
On, ben là, on a, ouais.
Mais là, c'est ça. On va parler de francophonie, entre autres, dans notre quiz cette semaine.
C'est toi l'animateur.
C'est moi l'animateur.
C'est le pauvre moi qui va falloir qu'il réponde.
Ben, écoute.
Tu veux nous parler de quoi, en partant?
Ben, entre autres choses, de cette 26e okay. édition des rendez-vous de la francophonie, je l'ai dit tout à l'heure. Vous connaissez l'une des deux porte-paroles, parce que depuis quelques années, on a...
C'est toujours deux, hein?
Oui, on a l'habitude oui. d'avoir des co-porte-paroles.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que toujours... je dis toujours, je ne sais pas, là, je ne veux pas m'avancer trop, mais c'est souvent un homme et
une
femme.
Oui.
Et cette année, on l'a dit tout à l'heure, Micheline, j'allais dire Martine, je ne sais pas pourquoi, mais Micheline Marchildon.
Oui.
C'est la porte-parole, une franco-manitobaine d'origine. Et l'autre, c'est le
oui.
Flo Franco,
ah,
qui
okay.
est un rappeur mm-hmm. qui fait du hip-hop et de la musique un peu comme celle-là, musique urbaine, là, c'est ça. De la pop urbaine multicolore, c'est comme ça que lui, il l'a décrit, sa musique.
OK.
C'est intéressant.
Oui.
Alors, c'est un type qui vit ou en fait qui s'est installé en Ontario. Il est d'origine haïtienne et puis il va... propager son amour de la langue avec Micheline Marchildon pendant le mois de mars, en étant, lui, le co-porte-parole. Puis on vous le présentera la semaine prochaine.
Effectivement.
Hey, on a de la suite dans les idées. Quand
ben,
même.
Mais... Hein.
Alors, il y a des activités un petit peu partout, à la grandeur du pays. Tu sais que les rendez-vous de la francophonie, c'est pas un événement à proprement parler, mais c'est...
C'est une tonne.
Oui, une tonne de petits événements qui sont disséminés oui. un petit peu partout à travers la francophonie canadienne.
Mm-hmm.
Et oui, ça s'intéresse évidemment aux francophones, mais on essaie également d'inviter là-dedans les nouveaux arrivants, les anglophones, les francophiles,
oui.
de les, comment je dirais ça, de les habituer à la langue française, mm-hmm. à la culture canadienne-française,
oui.
ou franco-canadienne, devrais-je dire, par le biais d'activités qui sont présentées un petit peu partout. Des films puis des affaires comme celle-là.
Il y en a à peu près dans toutes les communautés.
Absolument. Puis
oui.
si ça vous tente d'avoir de l'information puis de consulter le calendrier,
oui,
pour aller au site internet rvf.ca.
Ah, ben c'est simple.
C'est simple, tu dis. Ma foi du ciel. RVF.ca. Tu sais, y a-tu plus simple que ça?
Ben là.
Et tu sais une chose, c'est qu'il y a cette année, et c'est assez particulier, ils ont une nouvelle boutique.
Oh.
Ouais. Fait que si ça vous tente de commander le poster officiel,
oui.
un T-shirt, une épinglette ou des affaires comme celle-là, ben allez faire un tour parce qu'il y a une boutique en ligne.
OK.
Tu peux accéder par le site Internet.
Et ils ont toujours des belles affiches.
Sont belles, les affiches.
Ah, c'est toujours, oui, c'est toujours original.
C'est pas pire, hein? Ils sont dans l'espace.
Oui.
C'est ça, je pense.
L'espace francophone.
Oui,
vraiment belle.
Le thème cette année, c'est découvrir en éclats. Tu sais, comme rire aux éclats. C'est découvrir aux éclats, je pense que c'est ça. Alors, c'est le thème cette année. Il y a comme un petit jeu de mots, le découvrir, tu sais, aux éclats. Et puis, c'est pour ça un petit peu qu'on les a comme installés. Quand vous allez sur le site Internet, ils sont comme installés dans une espèce de capsule spatiale pour découvrir l'espace franco-canadien. Alors, rvf.ca, si vous voulez avoir davantage de détails sur la programmation 2024.
Allez, faire un tour. Moi, je vais te donner quelques petits faits sur la langue de Molière.
Ah ben, vas-y donc.
Ben. Hein? Moi aussi, j'ai de la suite dans les idées.
Ben oui, allez, vas-y, là, avec tes petits faits.
Le mot « oiseau » au pluriel est le plus long mot dans lequel aucune des lettres n'est prononcée individuellement.
C'est vrai, hein?
Oui.
Pense-y.
Oiseau.
Oiseau.
Oui.
Ah, il n'y a aucune prononciation.
Aucune lettre que tu prononces tout seul.
Ah, c'est assez fantastique.
La phrase... Et ça, je m'en souvenais. Porter ce vieux whisky au juge blond qui fume contient toutes les lettres de l'alphabet. C'est un pangramme. Qu'est-ce que ça veut dire, pangramme? C'est du grec pan, tous, et gramme, lettre. Cette phrase était traditionnellement utilisée comme exercice d'évaluation dans votre cours de dactylo.
Oh, vraiment?
Oui.
OK.
Je l'ai déjà écrit.
Ah, c'est pas mal. Mais je sais une chose aussi, c'est si je ne me trompe pas, c'est peut-être plus le cas maintenant, mais je sais que Windows, dans Microsoft Windows, quand ils affichaient les polices d'écriture, par exemple.
C'était ça.
C'était la phrase portée,
ce vieux whisky au juge blond qui fume.
Ouais. C'était comme pour montrer l'ensemble ou l'étendue de la police de caractère. Donc, tu avais tous les caractères là-dedans. Ouais.
Les mots belge, muscle, 14, goinfre ou huître, mais également humble, monstre, meurtre ou pauvre, ne riment avec aucun autre mot.
Ah ouais, vraiment?
Oui.
Eh bien.
Certains mots ont des sens contradictoires en français. Le mot hôte signifie par exemple à la fois celui qui invite et celui qui est invité. Pareil pour apprendre, qui signifie en même temps enseigner et assimiler.
Ah!
Tu sais, quand on dit là, la langue française est bien compliquée à apprendre, mais c'est ça là. Emprunter à l'anglais le verbe flirter vient en fait de l'ancien verbe français fleureter, qui signifiait autrefois compter fleurettes. L'anagramme de chien est niche.
Ah, ben oui.
Oui, hein? Parmi les anagrammes les plus célèbres, soulignons également grenat, qui est l'anagramme du mot argent, ou encore aspirine, qui est celui de parisien.
Vous savez ce que c'est un anagramme, hein? Effectivement, c'est tu prends les lettres...
Tu refais un mot.
Tu refais un mot, oui, c'est ça.
Les mots « amour »,« délice » et « orgue » sont les trois seuls mots de la langue française qui sont masculins au singulier, mais féminins au pluriel. Avec l'anglais, le français est la seule langue parlée sur tous les continents. « Ressasser » est le plus long palindrome de la langue française, qui signifie qu'il peut se lire d'un bord comme de l'autre.
comme Laval.
De gauche à droite ou de droite à gauche.
On se trouvait tout le temps très intelligent quand on disait, c'est ça que Laval, tu le vires à l'envers, tu sais, puis ça sonne pareil.
Mais oui.
Sors recenser dans une conversation, tu vas dire que tu vas avoir de l'air intelligent, pas qu'à peu près.
Mais c'est ça.
En fait, tu un palindrome, recenser, mets ça dans ta pipe.
Le vrai mot français le plus long n'est pas anticonstitutionnellement.
Ah, c'est toujours ce qu'on a pensé. Ben
oui, mais quinte-toi bien. Le mot le plus long a 49 lettres et je vais essayer de vous le dire.
Oh, OK. Ça se voit.
Okay, je vais lever ma feuille parce qu'il est long. OK. Aminométhyl pyrimidinili droxyéthylméthyltiazolium. C'est en fait le nom systématique de la vitamine B2.
Oh, OK. Ils ont dit,
tu comprends-tu pourquoi qu'on appelle ça B2?
OK, on raccourcissons un peu. Mais tu mets ça sur un... Tu fais une boîte de multivitamines, tu dis qu'on contient de la vitamine, tu prends la largeur de l'étiquette.
Le mot Jean, hein, G-E-N-S,
oui,
n'en fait qu'à sa tête.
OK, pourquoi?
Suivi d'un adjectif, il est masculin. Les gens, heureux.
Oui.
Mais précédé d'un adjectif, il est...
Féminin.
Féminin. Les petites gens.
Oui, ou les bonnes gens.
Oui.
Ah, wow!
Sauf... Attention.
OK.
Si cet adjectif est suivi d'une virgule, comme... Intrigué, virgule, les gens l'écoutent. Je sais.
Peux-tu croire qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est assis et qui a dit « Faisons des règles pour que ce soit un petit peu compliqué.
» On peut se compliquer un petit peu plus la vie?
Ouais, c'est genre.
« Ou » est le seul mot de la langue française à posséder un « u » avec un accent grave.
Oh!
Le pluriel de « aille », de « l'ail ».
Oui.
Oui, qu'on met dans...
Comme une gousse d'ail. Là.
Une gousse d'ail est « o ». A-U-L-X.
Ah!
Il existe, mon cher, un livre de 300 pages qui ne comporte aucun « e ». Il s'agit de La disparition. C'est un roman de Georges Perec, publié en 1969.
Wow!
Ah non, il faut le faire, là.
Wow!
Et je termine avec « Saviez-vous qu'il existe un mot français pour parler d'un e-book, un livre électronique? »
Oui.
Livrel.
Le livrel, ah.
Un livrel, mon cher, c'est-tu cute?
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, des trésors de la langue française.
Ben oui.
Et on consacre justement l'émission presque dans son entier cette semaine à justement la langue française.
À notre belle langue.
Qu'on va célébrer pendant le mois de mars. On s'arrête pour une pause. Première de l'émission, on revient dans un instant avec une entrevue à propos de l'improvisation.
Restez en contact avec Le Contenir des infos.
Le Contenir des infos.
Écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Le Contenir des infos.
Si je vous demandais de me parler d'improvisation, de me décrire c'est quoi l'improvisation, est-ce que vous seriez capable de me répondre?
Il y a une chose qui est certaine, Simon, c'est que quand on cherche « Ligue d'improvisation francophone » dans Google, je vous invite à aller le faire, c'est assez impressionnant le nombre de ligues présentes dans les communautés francophones en situation minoritaire au pays. On pense au territoire du Nord-Ouest, en Ontario, en Colombie-Britannique.
Et même dans le territoire du Yukon. Et pour nous parler d'improvisation, on va recevoir aujourd'hui avec nous Marie-Claude Desroches-Maheu. Elle est l'une des organisatrices d'une ligue d'improvisation qui est située au Yukon. Ça s'appelle la Fabrique d'improvisation du Nord et l'acronyme, ça donne la fin. C'est intéressant. Alors, c'est une ligue d'improvisation francophone qui a vu le jour en mars 2022 et qui n'arrête pas de gagner en popularité depuis. Elle est avec nous au téléphone, Madame Desroches-Maheu. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Claude, parle-nous un petit peu de l'improvisation. C'est quoi ça, l'improvisation? Qu'est-ce que ça mange en hiver?
Oui, ben en fait, l'improvisation, puis là, j'y vais un peu de ma mémoire. J'espère que je me trompe pas, mais si je me souviens bien, ça a été inventé au Québec. Puis l'idée était de ramener les gens au théâtre, mais vu que les gens écoutaient beaucoup le hockey à la télévision, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait faire un mélange des deux. Donc, on va faire une espèce de théâtre qui a la forme comme le hockey se déroule. Donc, avec des punitions, un arbitre, des périodes, tout ce qu'on veut. Là, on essaie de reprendre un peu le décorum du hockey. Puis, je pense que ça a lancé de la popularité, surtout évidemment la LNI, donc la Ligue nationale d'improvisation. Les gens l'écoutaient à la radio, à la télévision, sont allés voir des matchs en personne. Donc, j'ai l'impression que ça a explosé la popularité de l'impro un peu partout. Okay. Mais là, j'ai malheureusement pas étudié l'histoire de l'impro, donc je suis désolée s'il y a quelques petites informations.
Ben non, mais il y a pas
un peu mal rapportées. Mais,
ben non, mais il y a pas de problème. En gros, c'est ça. Mais il n'y a pas de problème, Marie-Claude, mais c'est intéressant de voir qu'on a essayé un peu d'embarquer des gens qui, a priori, étaient peut-être pas intéressés par la culture théâtrale, on va dire, qui étaient peut-être davantage portés à s'intéresser au hockey, puis dire, ben voici quelque chose qui ressemble un petit peu au hockey, mais qui, en même temps, est quand même très éloigné, là, on s'entend, là.
Oui, en effet, c'est très éloigné. C'est pas du tout la même chose qui se passe sur la patinoire, comme on dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend vraiment toute l'idée. Tu sais, par exemple, nous, on appelle ça la patinoire. On a des bandes, tu sais, les joueurs, l'espace de jeu, en fait, est entouré de bandes qui ressemblent tout à fait à des bandes de hockey. Donc, tu sais, on utilise une puck, tu sais, pour décider quelle équipe va y aller en premier ou donner le choix à l'équipe en premier. On utilise une puck avec les couleurs de chaque équipe. Donc, il y a vraiment toute l'idée du hockey qui est reprise. Puis, je pense que ça l'a ajouté un aspect moins sérieux à l'improvisation. Puis le fait qu'on se tutoie est parfait pour l'impro parce qu'il y a quelque chose de familier là-dedans, il y a quelque chose de familial. On se laisse aller, il n'y a pas de conséquences, on réinvente le monde, on invente des histoires. Donc, je trouve que ça a ramené justement le théâtre ou peut-être l'expression théâtrale. Tout le monde a pu se l'approprier. C'était plus juste une histoire de il faut être un acteur qui a étudié, qui a répété et tout. Je dis pas qu'il faut pas avoir de talent du tout pour être un joueur d'impro, c'est pas ce que je dis, mais j'ai l'impression que ça a permis aux gens de l'approprier.
Comment ça se passe de façon assez générale, là, un match d'improvisation?
Oui, donc les matchs d'impro, je dirais, de notre côté du moins, on a environ peut-être une quinzaine de sketchs ou d'impro, en fait, qui se déroulent sur 2 heures. Donc, on a une pause au milieu. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu les catégories. Il y a des mixtes et il y a des comparés. Donc, soit les deux équipes jouent l'une contre l'autre ou soit les deux équipes jouent ensemble pour créer une histoire. Puis l'arbitre donne un thème, une catégorie, des paramètres, par exemple, le nombre de joueurs et le temps. On fait une impro, le public vote après le sketch. Puis, à la fin de la soirée, on accumule les points. Puis on détermine l'équipe gagnante. Il y a aussi des pénalités. Je peux donner un exemple, par exemple, s'il y a un manque d'écoute. Par exemple, un joueur va amener une idée, un lieu, puis l'autre joueur va, par exemple, construire une histoire, mais dans un autre lieu en même temps. Donc, ça crée de la confusion. On peut donner une pénalité dans ce cas-là. Les pénalités s'accumulent et peuvent donner un point à l'autre équipe.
Et c'est-tu une pénalité de 2 minutes?
Non, c'est ça. C'est pas. C'est plus des. En fait, ça arrive qu'on va en prolongation, si on veut dire, quand on se retrouve avec un score égal à la fin d'un match. Mais les pénalités, c'est plus un point qu'on met à une équipe, un point négatif, en fait, puis après 3, on enlève un point à l'équipe ou on donne un point à l'autre.
OK, c'est un peu comme la conduite, hein? C'est des points d'inaptitude ou des points d'inconduite, on va dire.
Exactement.
Parlez-nous donc un peu de votre ligue, là, ma très chère, parce que c'est quelque chose, moi, de mes lectures, j'ai compris que c'est né pendant la pandémie.
Oui, tout à fait. En fait, on avait eu la chance d'avoir à l'époque un improvisateur de très grande expérience, c'est Philippe Lobianco, qui était au Yukon il y a 3 ans. Puis lui, il en a fait beaucoup d'impro, il a même parti plusieurs ligues, donc il avait offert des ateliers d'improvisation à la population. Donc les gens s'inscrivaient. Je l'ai fait. Donc pendant 13 semaines, on faisait de l'impro en fond, lui nous supervisait, nous donnait des trucs, il nous faisait faire des ateliers. Puis après, à la fin des ateliers, on a dit « Pourquoi on partirait pas une ligue? » Puis là, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient motivées. Donc, on s'est rassemblés. On était 4. Alexandre, Guérette, Antoine Goulet, Philippe et moi, on a décidé de monter la ligue pendant la pandémie. Donc, on a fait un peu un pari à l'aveugle, si on veut.
Ouais.
Parce que quand on a réservé la salle pour notre premier match devant le public, il y avait encore une restriction de 25 personnes maximum dans une pièce.
Ah oui.
Donc, on était déjà là 12 joueurs. Donc on a réservé en se disant, ils vont sûrement lever les restrictions d'ici là, parce que c'était quand même plusieurs semaines à l'avance. Puis comme de fait, je pense une semaine avant notre premier match, il avait enlevé toutes les restrictions du nombre de personnes dans une salle. Puis là, on était chanceux. Puis là, on a eu notre premier match devant 60 personnes, je pense, qui étaient avides, assoiffés de faire quelque chose, de se rassembler.
Qu'est-ce qui attire tant les gens dans l'improvisation?
Mais comme je disais un peu tout à l'heure, je pense que le côté très... Les gens aiment écouter des films, les gens aiment lire des livres. On aime ça, se promener, aller voir, tu sais, à notre imaginaire, promener, vivre des histoires et tout. Puis je pense que l'impro, il y a encore le fait que c'est de l'impro, puis qu'il n'y a rien de vraiment prévu. On va à des endroits où on ne s'attendrait pas d'aller. Puis des fois, une impro commence dans un lieu, finit dans un autre, où on se promène vraiment. Donc je pense que ça fait non seulement voyager les gens, ça stimule l'imagination. Mais il y a ce côté-là de rassemblement, de familiarité. Tu sais, il se dit des choses à l'impro. Qui reste à l'impro? Il y a de l'humour, il y a des émotions. Tu sais, il y a des belles émotions aussi. Des fois, on a des impros dramatiques. Donc, les gens vivent plein de choses. Puis, je pense que le côté familier aussi aide les gens à se sentir comme... Il y a quelque chose, ça vient nous chercher. On se sent à la maison quand on va voir un match. On est en famille.
Marie-Claude, tu me corrigeras si je me trompe, mais à la différence, par exemple, du cinéma, si je donne un titre de film à quelqu'un, par exemple, la femme du facteur, on s'attend qu'il y a une femme, un facteur, puis on a un peu le setup dans notre tête, même si on n'a pas vu le film, ou en tout cas, on essaie de se le conceptualiser. Par contre, ce qui est intéressant avec, en tout cas, je pense, l'improvisation, comme tu dis, c'est que on énonce un thème, mais ça ne veut pas dire que ça va être ça nécessairement.
Ça va dans tous les sens.
Ça peut aller dans n'importe quelle direction. C'est un peu ça, là.
Oui, puis en fait, on aime ça quand ça va dans une autre direction, tout à fait. L'impro, c'est sûr que quand on est des joueurs débutants, souvent, quand on entend un thème comme « la femme du facteur », ce qu'on a tendance à faire, c'est aussitôt que l'impro commence, on va faire « bonjour, mon mari, le facteur ». Donc, ça, c'est un réflexe quand on a moins... C'est quand plus on développe notre expérience de joueur, plus on va comme réinterpréter des titres. Mais justement, quand on voit l'ingéniosité de certains joueurs et joueuses de justement faire un clin d'œil au titre, mais sans nécessairement que ce soit très textuel ou littéral, c'est vraiment intéressant à voir à l'impro. Puis on encourage vraiment ça. Par contre, je dois juste dire que ça se peut que ça soit une pénalité si on retrouve absolument pas de lien avec le titre qui a été donné.
C'est ça. OK.
C'est ça. C'est pas obligé d'être, comme je disais, textuel, mais il faut qu'il y ait quand même un lien que l'arbitre est capable de faire avec la carte. Parce que sinon, c'est ça, c'est une pénalité là, de non-respect de la carte. Donc,
mais je pense que
faut quand même respecter.
Nos vies sont tellement rangées que je pense que c'est peut-être pour ça que les gens aiment tant l'improvisation, parce que là, tu peux te laisser complètement aller.
Bien, tout à fait. Puis moi, ça me surprend toujours de voir, par exemple, c'est sûr, dans une petite communauté, on connaît beaucoup de visages. Puis par exemple, des fois, on va voir des gens qui ont des emplois un peu plus sérieux, qui viennent voir l'impro, des fois, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, des fois, c'est un peu vulgaire, ou des fois, c'est un peu comme... je sais pas comment le dire, mais tu sais, l'impro, on va partout, on dit tout est permis ou presque, puis, mais de voir ces gens-là rire à cœur déployé, tu sais, c'est comme leur cœur d'enfant.
Ouais.
Puis des fois, c'est des choses pas nécessairement vulgaires, mais comme... J'ai l'impression qu'on retombe dans un monde, parfois, de l'enfance, où on est tellement dans le fantastique, puis de voir ces gens-là se laisser aller, puis rire à cœur déployé, puis moi, ça me fait toujours plaisir de voir ça, parce que ça rassemble tellement les gens. Tu sais, c'est pas élitiste, l'impro, c'est vraiment, là, il y en a pour tout le monde.
J'ai été un peu étonné, parce que je voulais faire une entrevue où on parle d'improvisation, puis là, j'ai tapé, comme disait François tantôt dans Google, Ligue d'improvisation francophone, comme les deux bras m'en sont pratiquement tombés, j'ai vu ça, Ligue d'improvisation francophone à Toronto, une autre ligue à Ottawa, une à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick, il y en a, c'est Yellowknife, et là, je suis tombé sur celle du Yukon, j'ai dit, ben ma foi du ciel, il y en a partout à travers le pays. Pourquoi, selon toi, Marie-Claude, ça marche autant et il y a autant de ligues à travers la francophonie? C'est quoi est-ce que c'est simplement le désir de s'amuser? Est-ce que c'est la langue? Qu'est-ce qui explique cette popularité de l'improvisation à travers la francophonie canadienne?
Mais je pense que ce que tu as nommé est déjà, oui, c'est sûr, le désir de s'amuser, le fait de pouvoir parler sa langue. Puis là-dessus, j'aimerais ajouter aussi le fait que l'impro, tu sais, il y a pas, c'est pas nettoyé. Tu sais, une pièce de théâtre, les phrases ont été travaillées, on prend la peine de penser à chaque mot et tout, mais il y a tellement un laisser-aller spontané dans l'improvisation que je pense que ça laisse les... Des fois, quand on est en situation minoritaire, on perd un peu le contact, des fois, avec la spontanéité de sa langue. Mais je trouve que l'impro, justement, renforce vraiment le sentiment d'appartenance à la langue, mais aussi Par exemple, la sécurité linguistique, qui est un sujet très important pour moi. Mais je trouve que justement, l'impro, tout le monde a le droit de parler avec l'accent qu'il veut, utiliser le langage qu'il veut. C'est comme, il n'y a pas de jugement. Mais je pense que ça, les gens aiment beaucoup ça, de ne pas se faire juger pour la langue qui est utilisée. Puis, bien sûr, je pense qu'il y a un aspect culturel. C'est parce qu'ici, c'est sûr que je suis en contact avec la communauté anglophone, puis l'impro, pour eux, c'est différent. T'sais, c'est plus de l'impro humoristique, stand-up. J'ai la difficulté à le décrire. Je suis moins familière avec le style, mais je sais que le style qu'on pratique, les francophones, est très différent. Puis je pense que cet attachement culturel-là aussi, de pouvoir continuer à vivre ou de faire vivre un peu sa culture, il y a un mélange de plein de choses qui fait que l'impro, là, c'est très, très, très cher au cœur des gens. Puis on se fait remercier de façon quotidienne, nous, la Ligue. Les gens nous disent oh, merci tellement d'avoir mis ce projet-là en branle. Ça nous. Ça fait notre semaine à chaque fois qu'on va voir un match.
Ben, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant, Marie-Claude, de t'entendre parler de ça parce qu'on voit que tu es une passionnée. Et j'espère qu'on a peut-être même donné, sinon, le goût aux gens d'aller voir de l'improvisation, peut-être d'y participer, peut-être même, va-t-on savoir. Partir une ligue par chez eux à travers la francophonie canadienne, ce serait vraiment intéressant. Marie-Claude Desroches-Maheu, je l'ai dit tantôt, elle est une des organisatrices de cette ligue d'improvisation qui est située au Yukon. Alors, ça s'appelle la Fabrique d'improvisation du Nord. On veut vous encourager, on veut aller voir vos activités ou quoi que ce soit du genre. Comment on fait pour suivre vos activités? Site Internet, page Facebook, comment on s'y prend?
On a les deux. En fait, on a essayé de faire ça simple pour tout le monde. Donc, notre site Internet, c'est lafin.ca, tout simplement. Puis sur Facebook, il va falloir taper notre nom complet. Par contre, c'est la Fabrique d'improvisation du Nord. Puis on essaie de mettre l'information à jour chaque semaine pour que les gens sachent où nous trouver et quand. Puis s'il y en a qui ont envie de nous inviter à jouer dans une autre province ou territoire, ben, ça nous ferait plaisir.
Ah, c'est fun ça. Marie-Claude Desroches-Maheu, merci beaucoup. Puis on va vous souhaiter un bon restant de saison.
Merci beaucoup à vous.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Bienvenue dans le balado Franco. Dans le cadre des rendez-vous de la francophonie 2024, encore une fois, on a deux porte-parole et on va avoir parmi les deux Micheline Marchildon, avec qui je parle à l'instant. Bonjour.
Bonjour, Vanessa.
Ça va bien?
Oh, ça va super bien de mon fin fond dans la prairie manitobaine.
Ouais. Et là, qui es-tu? Tu es humoriste, comédienne, animatrice. C'est quand dans ta vie que cette avenue-là est devenue un projet de carrière?
Dans ma tête, depuis que j'ai 4 ans, que je prenais la grosse couverture fuzzy, veloutée, puis je m'imaginais que c'était un gros manteau de fourrure, puis je me promenais sur comme un petit rebord près de la fenêtre, puis que je faisais semblant que j'étais une star d'Hollywood. Fait que mettons que je me suis calmée un peu depuis ce temps-là. J'essaie d'être un peu plus subtile. J'ai toujours su que c'est faire rire, c'était mon dada dans la vie depuis que je suis petite. Mais j'ai fait, dans ma carrière, m'a fait faire de l'impro, de la télé, radio, du dessin animé. Donc, tout ce que je fais me mène vers l'humour, mais ça fait vraiment juste 10 ans que je me concentre sur le stand-up. Je suis allée à Montréal pendant 3 ans, puis je me suis lancée à faire ça dans les bars. Puis ensuite, j'ai amené ça un peu partout, puis je travaille là-dessus plus... J'ai un focus là-dessus depuis 10 ans.
Là, tu me disais un peu l'image de quand tu étais petite, tu avais ta doudou et tout ça. Fait que j'imagine que pendant les parties de famille, tu étais celle qui allait en avant, puis qui faisait le show là, pour toute la famille?
Absolument. J'avais ma booker, qui est ma mère, qui me disait, OK, là, c'est le temps de faire ton petit solo de piano. Fait que là, je faisais le petit solo de piano pour tout le monde. Puis les matantes, ils braillaient parce que je chantais en même temps. Je vivais en campagne, fait que j'étais vraiment desperate pour de l'attention. J'avais juste mon chien puis mon chat, tu sais, genre, ouais. Comme public. Puis, tu peux juste comme les habiller puis les forcer de te regarder aussi, tu sais.
Un excellent public, pas très critique, c'est bien, tu sais, ça commence bien, là.
Ouais.
Et dans tout ce que tu fais, c'est quoi que t'aimes le plus? Qu'est-ce qui fait que t'en fais encore aujourd'hui, puis que je pense que tu vas poursuivre, évidemment, là?
C'est beaucoup de choses, mais c'est vraiment, je pense, OK, c'est quoi l'ultime? C'est quoi l'ultime? C'est la zone, OK? C'est comme t'amènes le public dans ton univers, t'es amené avec tes mots, avec ton... ton énergie, ton adrénaline, ton improvisation, whatever. Puis tout d'un coup, il y a un éclat de rire. Puis tout le monde éclate de rire, ou du moins presque tout le monde. Tu ne te concentres pas sur ceux qui ne rient pas. Puis là, tu as ta bulle. Puis ça, c'est tellement euphorique. Puis je me dis, oui, c'est comme un peu égocentrique d'avoir de comme, j'adore que le monde rit de ce que j'ai dit. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Puis quand j'y pense avec mon show Frenchie Art Québec, c'est le fait de, surtout dans cette thématique-là, c'est d'amener tous les gens à comprendre et à rire de leur propre réalité tous ensemble. Fait qu'on est tous dans un moment harmonieux ensemble où on transcende au travers de rire. Je trouve vraiment que c'est guérisseur, le rire. Comme, rire, c'est guérir. Puis je trouve que ça fait que les gens sont unis pour ce moment-là, puis ça cause aussi de la conversation par la suite. Alors, c'est mon high, c'est ce moment-là.
Ben, fait que, Léon, on va dire aux gens que ils vont rire, c'est sûr, mais que quand ils rient, ils vont se sentir bien de le faire parce que toi, ça fait que t'aimes ça. Ils vont rire oui. encore plus avec cœur, c'est génial.
Oui. Pour seulement un rire par soir, vous pouvez sauver cet humoriste.
Hey, c'est bon ça. Ça serait un bon slogan. Et parlant slogan, t'as le spectacle. Oui, ça prend des notes. Le spectacle Frenchie Art Québec. C'est quand je vois ce titre-là, je me dis, OK, de quoi qu'on parle? C'est quoi le message que tu voulais passer avec ce spectacle-là?
C'était vraiment de me dire, écoute, je pense que je connais pas beaucoup d'humour hors Québec qui parle vraiment juste de nous. Les Québécois, ça pleut des humoristes, mais je me disais, je veux parler de notre réalité. Puis ensuite, je me suis rendu compte, c'est tellement multiple, notre réalité de francophone hors Québec. T'as, mettons, ici à Saint-Boniface, on est quand même plusieurs réunis, c'est riche, on a beaucoup d'activités, mais tu sais, on a un combat linguistique, on est minoritaire, c'est beau, puis c'est le fun, puis on fait plein d'affaires. Mais t'as aussi comme des petits villages, tu sais, où il n'y a pas beaucoup de francophonie, mais eux, ils ont ce combat-là, mais ils ont leur party, puis leur souper. Il y a aussi des francophones qui arrivent à Toronto, puis qui sont... de toute la diaspora mondiale canadienne. Fait que ça, c'est une autre réalité. Puis t'as les Acadiens, évidemment. Moi, je suis tellement fan, fini des Acadiens. Et si vous venez voir mon show, vous allez comprendre jusqu'à quel point. Je peux pas en parler en entrevue en ce moment parce que c'est du matériel d'adulte. C'est ça, je parle de toutes les différentes réalités de c'est quoi être minorité francophone à l'extérieur du Québec. C'est vraiment de célébrer cet espace-là.
Oui. Donc, s'il y a des gens qui sont du Québec, peut-être qu'ils vont, ils vont en sortir plus cultivés, finalement, sur la francophonie canadienne. C'est intéressant pour ça.
Oui, absolument. Des fois, des gens sont un petit peu, comme je le vois dans leurs yeux, sont un petit peu choqués. Écoute, je me moque de tout le monde. Je me moque... Pas autant des gens d'Regina que des Québécois, que des Acadiens, que, tu sais, il va falloir que j'amène les Yukonais là-dedans parce que personne ne Yukonais ça, les Yukonais. Mais,
c'est ça.
Mais, non, les Québécois, sérieux, sont des fois surpris parce que, c'est vrai qu'on n'a pas grandi nécessairement avec ça ou c'est pas, en tout cas, jusqu'à peut-être avant, les dernières 10 années, là, on voyait pas beaucoup des francophones hors Québec dans la réalité pop culture au Québec. Mm-hmm. Alors, ouais, ils sont définitivement surpris, puis mais ceux qui sont capables de rire d'eux, ils trouvent ça bien, bien le fun.
Et justement, en étant franco-manitobaine, ça représente quoi pour toi la francophonie canadienne?
Ah oui, ben c'est quoi, j'ai des super bonnes notes très intelligentes là-dessus.
Ah, parfait, moi, allons-y.
Oh oui, je te commence. C'était bon là, j'ai trippé là-dessus. Parce que c'est une vraiment bonne question, ça. Parce que moi, je focus beaucoup sur la francophonie hors Québec, les FHQ. Mais là, la francophonie canadienne, ben, ça inclut les Québécois. Puis, c'est juste... Ce qui nous unit, c'est une espèce de mosaïque culturelle parce que finalement, la francophonie du Canada vient de partout sur la planète. Alors, qu'est-ce qu'on a en commun? Ben, c'est un espace francophone qui fait que on se réunit pour avoir du fun, on célèbre la francophonie, on célèbre nos intérêts, qui on est. Ça nous donne la chance aussi, notre langue, cet espace-là, de discuter de nos différences. Puis on voit beaucoup de ça, ben, en tout cas chez nous, je pense partout dans la francophonie du Canada, mais il y a beaucoup de nouveaux arrivants ici, c'est trippant, c'est incroyable ici à Saint-Boniface. Puis on a des soupers, puis on est des gens musulmans, catholiques, athées, de partout sur la planète, d'Africains, de toutes sortes de pays africains qui sont ici, qui ont choisi Winnipeg, je sais pas pourquoi, mais qui ont décidé que c'est la francophonie qui les a attirés ici. Alors, on vit ensemble et on travaille tous nos enjeux linguistiques et de vie ensemble. Alors, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, pour répondre, en somme, c'est un espace francophone. Donc, pour moi, la francophonie canadienne, c'est ça. C'est un espace pour, je sais pas, grandir comme être humain.
C'est sage, c'est très sage. Et bien, chose que tu pourras partager à titre de porte-parole des rendez-vous de la francophonie. Et comment tu vois ça, justement, cette nouvelle aventure pour toi comme porte-parole des rendez-vous?
Ben, écoute, premièrement, je dois répondre en disant que ça va être tout un trip, parce que surtout le mois de mars, on va faire la tournée un peu partout dans l'Ouest, pour moi, dans l'Ouest et le Nord. Et ça va être de retrouver des communautés francophones. Pour moi, c'est comme des cousins. J'appelle ça des cousins francophones FHQ partout au Canada. Des communautés avec qui j'ai travaillé parce que j'ai fait de la télé. J'ai fait beaucoup de télé dans toutes les communautés francophones de l'Ouest. Donc, aller retrouver littéralement des cousins, mais aussi des cousins spirituels francophones avec qui j'ai déjà travaillé. Aussi de triper avec des humoristes du Québec avec qui j'ai jamais l'occasion de travailler. Fait que ça va être incroyable. Je veux apprendre d'eux parce qu'ils ont l'occasion de vraiment travailler leur humour tout le temps. Dont Corinne Côté, que j'adore, en fait, ça va être un beau un cercle, ça va être une belle façon de boucler la boucle. Elle était une de mes inspirations il y a 10 ans. Elle est passée par Saint-Boniface. Puis elle m'avait dit, viens Micheline, viens à Montréal. Je vais te présenter à des gens. Puis elle m'avait comme aidée à commencer à faire de l'humour dans les bars là-bas. Puis je vais pouvoir donc triper avec Corinne Côté, Luc Leblanc de l'Acadie, Mona de Grenoble, qui est une vedette montante du Québec. Ensuite, à Ottawa, je vais pouvoir jouer avec Alex Bisaillon, le franco-ontarien, Richardson Zephyr. Donc, c'est vraiment une occasion de rêve pour faire de la tournée et apprendre et grandir encore plus comme humoriste.
Des belles rencontres, puis tu vas pouvoir aussi rencontrer des jeunes. C'est pas la première année que tu le fais. Tu offres des formations en humour avec le camp Foudrire. C'est quoi l'objectif de ce camp-là?
Eh bien, c'est environ une douzaine de jeunes, surtout des francophones ici au Manitoba, des jeunes issus de l'immersion, issus de la division scolaire franco-manitobaine, qui vont aller pendant 4 jours dans un camp à 1 heure de Winnipeg pour écrire un 5 minutes de stand-up. Et c'est pas rien. C'est quand même assez épeurant comme expérience. Mais on crée un environnement très sécuritaire où ils apprennent peu à peu à écrire des blagues. C'est quoi la recette? C'est quoi les procédés? Il y a comme une douzaine de procédés. Et ensuite, le samedi soir, ils présentent leur numéro. Et ça, ce n'est que le début. Donc, après ça, pendant 5 semaines, moi, je les coach une fois par semaine. Ensuite, ils ont 3 occasions pour présenter leur numéro dans les communautés francophones ici. Et la 3e fois, c'est devant les parents et familles et aussi des humoristes de Juste pour rire qui sont ici pour le gala Juste pour rire pendant les rendez-vous de la francophonie. Et ces humoristes-là vont leur donner de la rétroaction sur leur numéro, comment s'améliorer, c'est quoi la vie d'humoriste s'ils veulent vraiment faire ça. Donc, écoute, si j'avais eu ça quand j'étais adolescente, je serais plus grande que Seinfeld, comme, tu sais, c'est une occasion de rêve pour ces jeunes-là.
Et justement, c'est sûr qu'il y a un encadrement, vous les accompagnez, tout ça, mais comment tu le vois, en fait, du sens, comment que les jeunes rentrent là, puis comment qu'ils sortent de là? C'est sûr que c'est du cas par cas, mais mettons, en général, ça se passe comment pour eux autres?
Je pense qu'en général, je vais te dire, honnêtement, souvent, ils arrivent un peu la queue entre les jambes, puis ils sortent de là 4 jours plus tard avec des ailes, comme je le vois. Spirituellement, ils se sont poussés. Ils ont découvert leur unicité, puis c'est vraiment le but de cette affaire-là. C'est comme l'école de l'être humain. C'est comme, qu'est-ce qui te rend unique? Parle-en, fais des farces, accepte-toi et fais rire le public avec ça. C'est vraiment incroyable. Puis aussi, ils apprennent comment avoir une opinion sur le monde, une opinion sur des choses qui les agacent, et de trouver une façon d'exprimer ça en français. C'est un outil linguistique incroyable et juste un outil de vie. Vraiment incroyable. Sérieux, j'en parle encore puis j'ai des frissons. C'est vraiment une très, très belle expérience pour eux et pour nous comme formateurs.
Je serais curieuse de savoir, est-ce que dans ces jeunes-là, c'est toutes des jeunes qui, eux autres, ils vont faire un exposé oral, pas de problème, qui peuvent parler devant les gens, il n'y a pas de trouble, ou on en a des fois qui sont un peu plus gênés?
C'est tellement une bonne question parce qu'en général, on dirait que c'est moitié-moitié.
Ouais.
Tous ceux qui sont comme dans tous les camps, puis ils font tout, ils font de l'impro, ils sont comme moi, je suis drôle, puis moi, j'aime ça être devant le monde. Puis t'as l'autre moitié qui sont comme, ils arrivent, ils sont cachés derrière leur hoodie avec leurs cheveux dans les yeux, puis t'es comme, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Puis souvent, c'est eux qui ont comme les idées les plus cool, les plus weird ou les plus profondes, puis qui font ressortir ça parce qu'ils sont là parce qu'ils veulent dire quelque chose, mais c'est juste utiliser des différents outils pour aller les chercher puis les encadrer. J'adore travailler avec ces jeunes-là. Tu sais, on a déjà eu des jeunes qui sont arrivés puis ils nous ont dit des choses qu'ils n'ont jamais dit à personne ou qui ont, tu sais, puis c'est vraiment un bel espace parce que c'est un camp de 4 jours. On a l'occasion de ils ont l'occasion de se sentir vulnérables et de transcender ça et de trouver cette vulnérabilité-là, la rendre comme une force vocale pour eux. Ils trouvent vraiment leur voix pendant ce camp-là, puis c'est vraiment le fun à voir.
J'ai un peu de jalousie parce que moi aussi, j'aurais aimé avoir ce camp-là plus jeune, mais le camp Fou de rire, super, super beau projet. Puis d'ailleurs, merci à toi de faire partie du projet, de donner des outils à ces jeunes-là, puis de le faire aussi en français, dans leur langue. C'est une belle occasion pour eux de le faire. J'invite les gens à te suivre, dont oui, avec les rendez-vous de la francophonie. S'il y en a qui ne te connaissaient pas, ben c'est une occasion pour eux autres de faire Hey, elle est drôle, elle, je l'aime bien, m'a la suivre. Donc, Micheline Marchedon, qui, comme je disais, humoriste, comédienne, animatrice, maman et toute autre tâche connexe, les petits caractères qu'on lit pas tout le temps, j'imagine que t'en as. Mais un gros merci et je vais te souhaiter surtout ben, des bons rendez-vous.
Oui, puis espérons qu'on se rencontre dans les rendez-vous à un moment donné.
Absolument.
Merci, Vanessa.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
Ah ben, nous voici rendus à la dernière, toute dernière portion de l'émission Peut contenir des infos et nous allons nous attaquer au quiz.
Oh.
Quiz sur la francophonie.
Ça va être intéressant.
Pas sur la langue française à proprement parler,
okay.
Mais francophonie, tu sais, l'espace
oui.
Francophone et tout ça.
J'espère que tu vas me donner des choix de réponse.
Oui, absolument.
Ah, OK.
Oui. Oui, tu as 3 choix de réponse. Alors, il n'y a pas d'attrape. Là. Ben, il n'y a pas d'attrape. Donc, dans le quiz, il y a souvent des attrapes.
Oui.
Alors, première question.
Okay.
À quand remonte l'apparition du terme francophonie? Est-ce A, en 1880? Est-ce B en 1900 ou C 1970?
Le terme francophonie.
Francophonie. Première fois qu'on voit ça apparaître.
Je dirais en 1970.
Le terme est apparu
oui.
En 1880.
Aïe aïe.
Alors, c'est sous la plume du géographe français Onésime Reclus
okay.
Qui voulait décrire l'ensemble des personnes et des pays qui utilisaient le français.
Mm-hmm.
Et ça a sorti francophonie.
Hmm. Intéressant.
Quel jour célèbre-t-on? Parce qu'on sait que le mois de mars,
oui.
Dans lequel on entre de plein pied, là,
oui.
Ces jours-ci, c'est le mois de la francophonie. Mais il y a une journée particulière
dédiée.
Ouais, qui est dédiée à la okay. francophonie. Est-ce A, le 8 mars? Est-ce B, le 20 mars? Ou est-ce C, le 30 mars?
Le 20 mars.
Absolument, c'est le 20 mars. C'est la journée de la francophonie. Et bon, il y a des célébrations un petit peu partout à
oui.
travers le monde, mais on s'entend que quand, entre autres au Canada, on a le mois de la francophonie, ben, on célèbre pas mal tout le mois. Là,
ben, c'est ça.
Alors, d'après toi, et d'après vous, mesdames, messieurs qui nous écoutez, évidemment, parce qu'on veut vous embarquer dans la gang, là, pourquoi la date du 20 mars a-t-elle été choisie pour souligner cette journée, selon vous? Est-ce A, la date a été tirée au sort parmi toutes les dates du calendrier?
Ouais.
Est-ce B, pour souligner l'anniversaire du géographe Onésime Reclus, dont on parlait tout à l'heure?
Ouais.
C'est lui qui a inventé francophonie. Ou est-ce C, pour rappeler la date de la création de l'Organisation internationale de la francophonie?
C'est
absolument. On souhaitait de cette façon-là donc commémorer la création de, attention, l'Agence de coopération culturelle et technique le 20 mars 1970, qui, par la suite, allait devenir l'Organisation internationale de la francophonie.
Ah! L'OIF.
L'OIF.
OK.
Qu'on connaît encore aujourd'hui, évidemment.
Ben oui. Qui existe toujours.
Qui existe toujours.
Oui.
Ça, c'est sûr et certain. Quatrième question. Quand, parce que le sommet de la francophonie, vous savez ce que c'est que le sommet de la francophonie? Hein? C'est la plus haute instance décisionnelle de l'OIF.
Okay.
Le sommet de la francophonie, ça se tient en principe à tous les deux ans, quoique il y a eu des moments où je pense que ça a été, il y a eu comme un petit...
Il y a eu un gap.
Il y a eu une espèce de gap des années 90, si je ne me trompe pas, là, ou dans ces coins-là. Mais en théorie, c'est à tous les deux ans.
Okay.
Et c'est là où on prend un paquet de décisions qui ont rapport à la francophonie. Alors, quand et à quel endroit le prochain sommet de la francophonie se déroulera-t-il? Je te donne encore là des choix de réponse. Vous savez qu'on l'a déjà eu au Canada, savais-tu?
Oui.
Oui, on l'a eu à Québec, entre autres. On l'a eu à Moncton, à Moncton également. Deux fois à Québec, une fois à Moncton.
Okay.
Je pense que c'est le premier qui s'était tenu, ou le premier ou le deuxième qui s'était tenu à Québec. Là, je dis ça de mémoire, là, mais en tout cas. Alors, le prochain, il aura lieu, est-ce en octobre 2024, à Villers-Cotterêts en France? Est-ce en janvier 2025 à Liège en Belgique? Ou est-ce en septembre 2026 à Ouagadougou, au Burkina Faso, d'après toi?
J'hésite entre A et C. A.
A, ben tu as tout à fait raison. Hey, t'es bon depuis tantôt, là, franchement, là, c'est correct. A, le prochain sommet de la francophonie s'ouvrira effectivement le 4 octobre 2024 à... La Cité internationale de la langue française, c'est dans la petite commune de Villers-Cotterêts, en France, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais visité, mais là, ben, on va en entendre parler.
Ben.
Tu sais que c'est pas gros à part de ça. Hein? Souvent, le sommet de la francophonie se déroule dans des places assez connues ou reconnues.
Oui.
Mais Villers-Cotterêts, c'est à peu près 10 000 âmes. Là.
Okay.
C'est vraiment une commune, petite commune de la France. Ben, 10 000, c'est relatif, là, mais c'est pas Québec, Moncton, Montréal, mettons, ou Toronto.
Mais c'est parce que quand tu as dit les dates, puis je me souvenais, il me semble que c'était toujours à l'automne.
Ouais.
Fait que t'as dit janvier, c'est vrai. Ah, non.
Intelligent, ça a l'air de rien. Hein?
Ah, ben, déduction, moi, je vois-tu.
Lequel de ces symboles associe-t-on le plus fréquemment à la francophonie? Est-ce A, l'étoile? C'est un peu comme ce qu'on voit sur le drapeau de l'Acadie, hein?
Oui.
Est-ce B, la fleur de lys? Ou C, le lion?
Moi, je dirais la fleur de lys, là. Mais...
Oui, c'est tout à fait le cas. Ouais, c'est ça, c'est B. Alors, c'est plutôt délaissé en France, ce symbole-là, mais la fleur de lys symbolise encore en Amérique du Nord un symbole de la francophonie.
Oui.
On va l'apercevoir, entre autres, sur les armoiries ou encore sur le drapeau du Québec, le drapeau franco-ontarien, le blanc et vert, là.
Oui,
Lys
et trillium.
Et même... sur le drapeau de la ville de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.
C'est vrai.
Il y a la fleur de lys est présente.
La fleur de lys, oui.
Ça. Et je vais compléter. Avais-tu une petite nouvelle pour nous autres pour compléter? Parce que quand même, il est assez vite.
Oui.
Okay. Alors, combien d'États, et c'est la dernière question, combien d'États et de gouvernements composent l'Organisation internationale de la francophonie? Est-ce A, 88? Est-ce B, 75? Ou C, 67?
B.
Non. C'est A.
C'est A?
C'est A.
OK.
C'est 88. L'Organisation internationale de la francophonie compte 88 États et gouvernements, dont 54 en sont membres, 27 sont des observateurs et 7 sont associés. On dit États et gouvernements parce qu'il y a des États, des pays, à proprement parler, mais il y a aussi certains gouvernements, il y a certaines places. Tu sais, comme par exemple, au Canada, il y a comme... le Québec, le Nouveau-Brunswick, qui sont des membres, qui est observateur, l'Ontario est une espèce de gouvernement observateur.
Okay.
Alors, ça, c'est tout des, comme, je vais dire des factions, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est tout des représentants distincts les uns des autres qui ont une place bien à eux autres dans l'Organisation internationale de la francophonie, qui, je le rappelle, est donc formée de 88 États et gouvernements. Bien, t'as été quand même très bon, mon
frère. C'est beau,
t'as été vraiment très bon. Franchement, là, tu m'impressionnes.
On va vas-y. Conclure. tu es allé par en bas, en Nouvelle-Écosse.
Oui, je suis allé par en bas.
Tu as entendu des gens qui ont dit 70.
70, oui, j'ai entendu ça, ben oui.
D'où vient tout ça? Et pourquoi qu'aujourd'hui, on dit 70 et non plus 70?
Puis il y a 90 aussi pour 90, oui.
Il y a une explication à ça, mon cher ami. Et on va faire un petit tour dans l'histoire.
OK.
Au Moyen Âge, on se basait sur un système de comptage vicésimal, c'est-à-dire par 20. Ainsi, les gens à l'époque comptaient de cette façon. 20-10, qui était 30, 2-20, 40, 2-20-10, 50, 3-20, 60, 3-20-10, 70, bon, 80, 80-10.
OK.
À la fin du Moyen Âge, de nouveaux mots basés sur un comptage décimal vont apparaître dans la langue française. 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Avec l'arrivée des premiers dictionnaires au 17e siècle, les institutions se mettent d'accord sur l'usage des nombres. On va garder 80 et 90 de l'ancien système, mais on emploiera le comptage décimal pour le reste. C'est aussi à ce moment-là que le mot 70 apparaît.
OK.
Problème, c'est qu'il y a plusieurs pays francophones qui ont fait leur propre combinaison de comptage. Ainsi, en Belgique et en Suisse, 70 se dit
70.
70, 90, 90. Des formes que l'on retrouve dans certains pays d'Afrique francophone également, mais aussi à certains endroits au Canada.
Les deux bras m'en tombent. Pas de farce, là?
Ouais. C'est un mix des deux qui fait qu'aujourd'hui, on dit 70 plutôt que...
T'as l'impression que c'est des régionalismes. T'sais, à proprement parler, on aurait tendance à dire c'est juste des écarts de langage, pour ça que je veux dire, mais c'est comme des particularités ou des singularités régionales, mais en réalité, ça a des racines très historiques, ce que tu racontes.
Oui, absolument.
C'est intéressant, ça. Pour conclure une émission où on aura parlé d'improvisation, où on aura rencontré l'une des porte-paroles des rendez-vous de la francophonie, et pour lancer le mois de la francophonie, le mois de mars, qui, je vous le rappelle, est consacré à cette belle langue, qui est au rendez-vous de la francophonie.
Absolument.
Et faire un tour sur le site web rvf.ca. On conclut comme ça?
Absolument, oui, puis on se retrouve la semaine prochaine.